no longer a slave to fear. I am a child of God. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, plus esclave du péché, plus esclave de l'ignominie, plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été adopté, lavé, purifié, sanctifié par le sang de l'agneau, rempli par son esprit. Je suis héritier du Père et co-héritier du Fils. Tout ce qui est au Père est à moi. Je suis enfant de Dieu. La paix m'appartient, la joie m'appartient. La bienveillance, la bonté est à moi. La victoire de Christ m'appartient. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Mon adresse est une adresse céleste. Je suis ambassadeur de Christ. Désormais, je suis le premier et non le dernier, en haut et non en bas. I am a child of God. I am a child of God. Voici tes enfants, Père. Nos cœurs sont ouverts devant toi. Nous venons écouter les paroles du Père. Et pendant ce temps, nous prions que tu puisses opérer dans le cœur de ceux qui sont affligés, attristés, abattus. Que tu puisses opérer le miracle du changement, de la conversion, de la transformation. Mets la paix là où il y avait l'agitation. Mets la conviction là où il y avait le doute. Mets l'assurance là où on vacillait. Ce matin, Seigneur, il faut que tu parles à ton peuple. Il faut que tu croisses et que je diminue. Et qu'en toute chose, honneur et gloire ne reviennent qu'à toi. Parce que nous voulons nous joindre aux quatre êtres vivants et aux 24 vieillards et à la compagnie céleste et dire, tu es saint, tu es saint. Nous jetons nos couronnes devant toi. Nous confessons ta grandeur. Alléluia. Merci de bénir ce moment, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes debout, nos Bibles ouvertes, par respect pour la parole de Dieu, nous lisons dans l'épître de Jacques, premier chapitre, versets 2 à 4. Jacques 1, 2 à 4. La Bible dit ceci, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. » Dis à ton voisin, sois patient et tu peux t'asseoir. Dans Hébreux chapitre 12, la Bible dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. » Le meilleur exemple que nous ayons, c'est Jésus-Christ. Ce matin, j'ai été très édifié par le message que nous a apporté Papa Yassini sur la patience. Et il a donné une illustration qui m'a vraiment intéressé. Il a parlé du fait que des fois, quand vous vous trouvez à la banque et vous êtes en train d'attendre votre tour et que vous voyez quelqu'un qui est à la première ligne, plutôt que de faire la transaction que la personne doit faire, la personne est en train de parler avec celle qui est au guichet. Vous avez déjà expérimenté ça? Et vous êtes là, derrière, dans la file. Et je dois avouer que même nous, pasteurs, des fois, il nous arrive de perdre patience. Et même si à l'extérieur on peut paraître calme et serein, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Des fois, nous donnons des paroles d'encouragement secrètes à ces personnes-là. Mais qu'est-ce que tu crois ? Nous aussi, on a toute la journée. Mais quand je pensais à ton illustration, Yassini, quelque chose me disait, il y a plus que ça. En fait, la réalité est la suivante. Que quelquefois, quand tu vas à la banque, ça peut être pour un dépôt, mais généralement, quand c'est pour un retrait, ça peut être un chèque que quelqu'un a écrit en ton nom, n'est-ce pas ? Et donc, tu es dans la file en train d'attendre. Peu importe le temps que prennent les personnes qui sont avant toi, tu sais que ce chèque, des fois, a une grande valeur. Et ça m'est arrivé également. Un chèque que je devais toucher d'une grande valeur, je pouvais regarder les personnes qui étaient devant moi, celles qui traînaient et qui traînaillaient et qui faisaient des fières et qui étaient en train de parler avec les gens du guichet. Je pouvais me fâcher à l'intérieur et être impatient. Mais vous savez ce qui me redonnait l'espoir, la confiance et le courage ? C'était quoi ? Quand je regardais le nombre de zéros derrière dans le chèque que je tenais entre les mains. À ce moment-là, je pouvais facilement patienter. Pourquoi ? Parce que je savais qu'à un moment donné ou à un autre, je finirais par y arriver, je donnerais le chèque et le montant qui est sur ce papier va se transformer en réalité et ces choses vont m'être accordées. Je voudrais simplement dire à quelqu'un qui est en train de patienter, rappelle-toi des promesses de Dieu, rappelle-toi de ce qu'il a dit. C'est pour ça que l'apôtre Paul fait cette déclaration. Les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous en Jésus-Christ. Dis à ton voisin, patiente, patiente. Dis-lui, tu seras servi, tu seras servi, tu seras servi, tôt ou tard. Alors, nous avons défini la patience qui, dans l'Ancien Testament, est ordinairement traduite par lent à la colère. C'est une traduction hébraïque, expression hébraïque qui signifie « longueur de souffle ». Et dans le Nouveau Testament, le terme « macrotoumia » a pour traduction exacte la longanimité, plutôt que patience. Mais de l'enlogage courant, aujourd'hui, nous utilisons « patienter », qui vient du latin « pati », souffrir. Ce n'est pas seulement savoir souffrir, c'est aussi savoir attendre, même quand les choses ne se présentent pas au moment où nous attendons qu'elles se présentent. Alors la patience, c'est quoi ? C'est une aptitude à supporter les désagréments de l'existence. Dans l'exemple que je viens de vous donner, vous êtes là, et la banque, des fois, n'est pas climatisée, il peut faire chaud. Il peut arriver que les gens devant de vous sont en train de traîner, que les gens qui passent sont en train de vous bousculer, de vous pousser. Mais la patience, c'est l'aptitude à supporter les désagréments de l'existence. C'est aussi la qualité de quelqu'un qui peut attendre longtemps sans irritation et lassitude. Sans irritation et lassitude, quelqu'un qui sait attendre avec calme. Quelqu'un a fait cette expérience aux États-Unis, dans l'État de Californie en particulier, il y a des grandes autoroutes, et des fois il y a des autoroutes avec 1, 2, 3, 4, 5 bandes. La cinquième bande, des fois on l'appelle la carpool, ça veut dire que ceux qui sont à 2 ou 3 dans le véhicule peuvent rouler sur cette bande qui est censée être une bande express où on va vite. Mais il arrive que tellement qu'il y a de circulation, et là ce n'est pas un problème de route, ils ont des routes, mais il y a plus de véhicules à certains moments de la journée que de routes. Et donc, vous pouvez vous retrouver dans un embouteillage monstre. Vous n'avancez pas, vous êtes bumper to bumper, c'est-à-dire par choc à par choc. Il n'y a pas de progrès, vous n'avancez pas. Et un analyste a fait un reportage et un documentaire. Il s'est dit, mais tiens, je veux essayer de voir dans les véhicules comment est-ce que les gens sont en train de passer ce moment d'attente. Parce que retenez que l'attente n'est pas nécessairement la patience, c'est différent. Alors, dans un véhicule, il demande au monsieur de baisser la vitre, il prend son micro, il demande « Monsieur, comment pensez-vous que la situation se passe ici en Californie ?» Et le monsieur a commencé à insulter les autorités. Il a commencé à vociférer. « Ils doivent prévoir ce genre de situation, on doit avoir plus de routes, ce n'est pas normal, moi je vais être en retard au travail, ce n'est pas acceptable que dans un pays comme les États-Unis, ces choses peuvent arriver. » Deux voitures plus loin, même réaction. Et puis il arrive dans une voiture, il constate à travers la vitre que le conducteur était en train de chanter. Déjà, c'était bizarre. Il frappe aussi à la vitre et il pose la question. Comment vous pensez que cette situation doit être résolue? Et le monsieur a dit, bon, je crois qu'ils vont certainement résoudre tôt ou tard. Et puis il demande, mais vous n'êtes pas fâché? Pourquoi je serais fâché? J'ai amené ma louange, je suis en train de louer le Seigneur. Après ça, je vais écouter un enseignement. Et puis je vais me préparer pour mon travail. Et comme le véhicule n'avance pas et ne bouge pas, de temps en temps, je prends mon agenda, je rajoute les rendez-vous que je dois prendre. Deux attitudes différentes. Pourquoi? Pour deux circonstances similaires. Vous pouvez vous trouver au même endroit, mais avoir des réactions différentes. Quel était le secret de celui qui était en train de louer le Seigneur? Il se disait simplement, tôt ou tard, j'arriverai à destination. Et quand j'arriverai à destination, je serai prêt pour le travail que je dois accomplir, puisque je suis encore en train de me préparer à ce moment. Prépare-toi pour ce que Dieu t'a réservé. Au moment où tu y arriveras, tu n'auras plus besoin d'exercice, mais tu seras en mesure d'exercer sur le champ. C'est pour ça que quand Dieu permet que tu sois jeté dans le puits, que tu sois amené chez Potiphar ou que tu sois amené dans la prison, fais le travail que Dieu te met au devant de toi en ce moment-là. Pourquoi? Parce que quand on t'amènera au palais, il n'y aura plus de temps pour la formation, il faudra mettre en application tout ce que Dieu t'a appris pendant que tu étais en train de patienter. Et je veux prophétiser pour quelqu'un que ce que tu attendais est tellement grand que Dieu prend suffisamment de temps pour le préparer pour toi. Suffisamment de temps. C'est la constance dans l'effort également. Alors d'où vient la patience? La patience est un fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, versets 22 à 24, la Bible déclare que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, parce que l'impatience fait partie des fruits de la chair. Crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, un fruit de l'esprit. Alors, quelle est l'importance de la patience? Pourquoi est-ce qu'on va passer tout un mois en vous parlant simplement de la patience? Je sais que certains d'entre vous auraient préféré qu'on vous parle de la bénédiction, du mariage, de la prospérité, de l'élévation, de la grandeur. Pourquoi l'année de la célébration, on nous parle de patience? J'ai oublié de vous dire que le titre de mon message aujourd'hui, c'est qu'en d'autres termes, la patience précède la célébration. En fait, il n'y a pas de vraie célébration sans patience. L'importance de la patience, c'est quoi? Premièrement, retenez ceci. Il n'y a pas de préparation sans patience. Dans Genèse 45, versets 7 à 8, je vous ai parlé tout à l'heure de Joseph, brièvement. Il fait une déclaration assez intéressante. Il dit ceci à ses frères. « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Joseph, est-ce que tu oublies que ce sont tes frères qui t'ont trahi, qui t'ont battu, qui t'ont vendu? Est-ce que tu oublies qu'ils étaient jaloux de la tunique que ton père t'avait faite? Joseph, as-tu perdu de vue qu'au lieu de bénéficier de l'amour de ton père, pendant toutes ces années, tu as été éloigné de ton père à cause de tes frères? Mais dans la déclaration que Joseph fait, il dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu. Joseph. Pasteur, est-ce que tu veux me dire que les gens qui me haïssent, qui me font des complots, des pièges, ceux qui me veulent du tort, qui me critiquent, qui me calomnient, ceux qui sont prêts à dire du mal de moi dans mon dos et de me trahir, veux-tu dire que ce qu'ils font, Dieu peut l'utiliser pour mon bien-être? Réponse. C'est pour ça que je voudrais dire à quelqu'un, si tu n'as pas d'ennemis, il faut en chercher. Non, je retire. Ne cherchez pas les ennemis, ils viendront volontairement d'eux-mêmes. Ne vous inquiétez pas. Si vous faites le bien, vous aurez des ennemis. Si vous cherchez à obéir à Dieu, vous serez persécuté comme Christ l'a été. Mais retenez ceci, ne prenez pas ou ne faites pas l'erreur de confondre d'où peut venir cette persécution et qui est en train de la permettre. C'est pour ça que Jésus a dit en fin de compte, priez pour vos ennemis et même pour ceux qui vous persécutent, puisque sans le savoir, ils sont les agents de Dieu pour te préparer à l'élévation que Dieu a en réserve pour toi. C'est tout ce qu'ils sont. Les meilleures personnes que vous devez aimer, eh bien, c'est ceux qui vous veulent du tort. Et quand vous êtes dans une position d'autorité, n'utilisez pas votre autorité pour la vengeance. Je le répète, quand vous êtes dans une position d'autorité, n'utilisez pas votre autorité pour vous venger. Dans Genèse 50, versets 20 à 21, regardez ce qu'il finit par conclure. Joseph finit par conclure ceci, il dit ceci, « Vous aviez médité de me faire du mal. » Au départ, il dit, « C'est Dieu qui m'a envoyé. » Ok ? Malgré tout ce que vous avez fait, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Mais vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Que quelqu'un puisse bénir son ennemi ce matin. Tu as entendu qu'il est en train de radoter autour de toi ? Demande la bénédiction de l'Éternel sur lui. Parce que Dieu est capable de prendre tous les pièges et tous les complots qu'il est en train de fomenter contre toi. Et qu'est-ce qu'il va en faire ? Il va en faire un marchepied pour te permettre de marcher dessus et d'arriver à destination. Dieu le fait. Dieu l'accomplit. Deuxièmement, il n'y a pas de perfectionnement sans patience. Il n'y a pas de perfectionnement sans patience. Il est impossible que tu arrives à un niveau d'exercice du don et du talent, de l'aptitude que Dieu a placé en toi, si tu n'es pas suffisamment prêt à patienter. Dans Jacques chapitre 5, verset 11, la Bible dit, « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Je répète, ceux qui ont souffert comment ? Patiemment. Ce n'est pas ceux qui ont souffert en se plaignant, en calomniant. Ce n'est pas ceux qui ont souffert en disant « Mais cette vie chrétienne, finalement, à quoi ça sert ?» Ceux qui ont souffert patiemment, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Que Dieu t'accorde une fin meilleure que celle de Job, qui est arrivé à recevoir le double de ce qu'il avait précédemment, grâce à la patience. Il n'y a pas de perfectionnement sans patience. La patience, c'est la qualité. La qualité est fonction de la patience. On a souvent l'habitude de se plaindre des couturiers. Je ne sais pas si vous avez déjà donné un tissu à un couturier, un tailleur, hein, et vous lui avez bien dit, le culte, c'est dimanche. Vous lui avez donné même le dimanche passé, précédent. Le culte, hein, dimanche. C'est quel jour ? Dimanche. Mercredi, comment ça avance ? Ah, kobangate vie. Tozo ça là, ozoango kobangate. Comme on dit en latin, calmus elecus nionsus. Ça ressemble un peu au lingala, calme elekinyonso. Mercredi, vous appelez. Jeudi, vous appelez. Vendredi, vous appelez. Vendredi, vous vous dites, non. Il faut quand même qu'on aille voir. Parce que le culte, c'est dimanche. Vous allez voir. On a seulement coupé le tissu en deux, c'est fini. Il n'y a pas de progrès. Ça n'a pas avancé. Dis, mais comment ? Et tu te plains. Le samedi soir, tu appelles. Il ne répond plus au téléphone. Et puis, tu changes de numéro pour l'atteindre. Parce que des fois, quand il voit ton numéro, c'est à ce moment-là qu'il ne prend pas. Tu changes de numéro, tu l'appelles. Tu finis par l'avoir. Tu dis, mais mon cher, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, vous l'entendez de l'autre côté. Les numéros de votre correspondant sont soit éteints, soit hors du périmètre cellulaire. Oh ! Mais Jeff, c'est toi, non ? Les numéros de votre correspondant soit éteints, soit hors du périmètre cellulaire. Vous arrivez le dimanche, la chose n'est pas là. Et généralement, est-ce qu'il y a des tailleurs ici ? Levez la main. Et généralement, voilà. Généralement, nous blâmons les tailleurs, vrai ou faux. Mais retenez ceci. Les choses de qualité prennent du temps. Il fallait lui donner ça un mois à l'avance. Les tailleurs, nous applaudissons. Si tu veux quelque chose de rapide, il va te faire la chose. Il y aura un bouton ici et puis un bouton de l'autre côté. OK ? Il a dit, ah, mais tu étais pressé, tu as dit le culte c'est dimanche. Mais voilà, non ? Mais si tu veux quelque chose de qualité, eh bien, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Je ne parle pas de celui qui traînait, qui négligeait ton travail, mais il faut prendre le temps. Les choses de qualité prennent du temps. Rien de bon ne se produit dans la précipitation. Rien, rien, rien. C'est pour ça que Proverbes chapitre 21, verset 5 dit ceci. Les projets de l'homme diligent, c'est-à-dire de celui qui prend le temps d'appliquer son talent à la besogne, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. C'est pour ça qu'une fortune que tu as accumulée au fur et à mesure de l'épargne, du travail, de l'investissement, une fortune que tu as accumulée au fur et à mesure du travail, au fur et à mesure que tu étais en train de faire des placements, des jobs par-ci, par-là, c'est une fortune qui va te donner de l'abondance et qui va subsister. Mais ce que tu as pris par l'escroquerie, par le vol, par la tricherie, finira par te filer du bout des doigts, rapidement, rapidement, et tu ne comprendras même pas. C'est pourquoi plutôt que de demander un 5 dollars, demandez à la personne comment il a fait pour obtenir les 5 dollars et faites la même chose. Pas de célébration sans patience. Pas de célébration sans patience. Ecclésiaste 7, verset 8 dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Et quelqu'un a fait cette déclaration. Il a dit ceci. La patience est une des étapes importantes vers le succès. Ne jamais se précipiter dans quelque chose que vous voulez bien faire. Et quand je parle de la patience, il faut que je vous dise ce que la patience n'est pas. Parce que souvent, nous confondons la patience avec, premièrement, regardez, nous confondons la patience avec la négligence. Le tailleur qui n'a pas encore commencé à faire le travail le mercredi, ce n'est pas de la patience, c'est de la négligence. Qu'on ne vous taxe pas de « Ah, mais ce pasteur est impatient. » Non, 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 non. Des fois, je demande à certains de mes coéquipiers de faire un travail, mais plutôt que de s'armer de raisons de faire le travail, ils cherchent les excuses à ne pas le faire. Et puis, ils ont aussi l'audace de dire « Le pasteur n'est pas patient. » Non, 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 non. Ne confondez pas votre négligence avec la patience du pasteur. C'est pour ça que Proverbe nous encourage à aller voir la fourmi. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Ni chef, ni inspecteur, ni maître. C'est-à-dire il n'a ni superviseur, ni directeur général, ni chargé des ressources humaines. Mais regardez ce qu'il fait. Elle prépare en été sa nourriture. Oh, mais l'été c'est pour aller en vacances, non ? Oui. Pendant que toi tu vas en vacances, lui prépare sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et il pose la question paresseuse, jusqu'à quand te coucheras-tu ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Qu'est-ce que l'auteur de Proverbes nous dit ? C'est que la richesse, comme la pauvreté, dépend de la personne qui en bénéficie. C'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui a fait cette conclusion. C'est pas moi, c'est lui. Il dit, en fait, si tu vas chez la fourmi et tu fais ce que la fourmi fait, imaginez un peu, Dieu est obligé de nous enseigner en prenant exemple sur le monde animal. Pourquoi ? Parce que certains êtres humains estiment que d'autres doivent travailler pour eux. Que d'autres sont censés amasser et eux sont censés récolter. Eux doivent faire les efforts et transpirer et vous, vous devez simplement bénéficier. Et quelqu'un m'a dit, m'a envoyé sur les médias sociaux une observation. Il dit, faites attention aussi, toi qui travailles, toi qui as de l'emploi et toi qui as des ressources matérielles et financières, tu es devenu incontournable dans ta famille. Mais qui sait si quelque part tu n'es pas responsable de la misère de tes frères et sœurs ? Oh, comment ? Oui, si toi tu as réussi, pourquoi ne pas enseigner aux autres ce que toi tu as fait pour réussir ? Quelquefois, on aime avoir les gens autour de nous en train d'attendre. Pourquoi ? Parce qu'on leur donne ce qu'eux n'ont pas. Et ça nous confère à nous une plus haute importance, vrai ou faux. Alors que ce que nous devrions faire, c'est si toi tu es fourmi, enseigne à l'autre comment de devenir fourmi. Plutôt que de continuer à lui donner des choses pour lesquelles il ne travaille pas et qu'il est en train de négliger. Regardez également, la patience, ce n'est pas l'irresponsabilité. Ce n'est pas l'irresponsabilité. Qu'est-ce que tu fais, frère ? Non, non, non. Nous, on est là, on patiente. Hein. On patiente. Oui, et qu'est-ce que tu fais en patientant ? Non, 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 on patiente. Regardez, dans cette banque où tu es en train d'attendre, tu es debout. Tu utilises ton énergie et ta force. Et à chaque fois, tu marches. Chaque fois, tu évolues. Tu patientes pour arriver, mais tu travailles en patientant. Jusqu'à ce que tu puisses avoir ta récompense. Ce n'est pas de l'irresponsabilité. Regardez 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 10 à 12. « Car aussi nous étions auprès de vous, nous vous avons enjoint ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il... » Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit ici. « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, car nous apprenons qu'il y a quelques-uns parmi vous qui marchent dans le désordre, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant de tout. Mais nous enjoignons à ceux qui sont tels et nous les exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ de manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » Les gens qui vous causent le plus de problèmes dans quelque organisation que ce soit, c'est souvent les fainéants, les paresseux. Il sait depuis le début du mois qu'à la fin du mois, il doit remettre son rapport. La veille où il doit remettre son rapport, il commence à insulter le patron. Vraiment, on nous exploite dans cette organisation. Vraiment, on ne fait pas bien. Ils sont méchants. Est-ce que d'ailleurs, ils nous payent comme il faut ? Depuis le premier du mois, il savait qu'il devait te remettre le rapport. Qui vit dans le désordre. La patience n'est pas non plus l'indifférence. 1 Corinthiens 13, 4 à 5. Ce n'est pas l'indifférence. Il arrive des fois que quelqu'un vous a causé du tort et puis vous vous retrouvez, vous vous dites simplement, toi, je ne dis rien, mais attends, tu verras. Non, la patience, ce n'est pas la rancune ou l'indifférence. D'ailleurs, je ne te parle plus. Et qu'est-ce qu'on attend ? On attend que le malheur puisse le frapper. Ce n'est pas ça, la patience. La patience, c'est être en mesure de servir celui qui est en train de te causer du tort. C'est même quelquefois être capable d'entourer de bienfaits la personne que tu sais est en train de comploter dans ton dos. Alors regardez, je termine avec quelques bénéfices de la patience et puis nous allons prier. Quelques bénéfices de la patience que je voudrais que vous puissiez retenir. L'un des bénéfices de la patience, c'est la prospérité comme on l'a lu avec les fourmis. Ça veut dire que quand vous êtes en train d'œuvrer vers l'accomplissement d'un objectif quelconque, ça prendra du temps. Jacques 5, 7 dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur. Attends le précieux fruit de la terre, prenant patience. » Regardez, il attend, mais pendant qu'il attend, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend patience. Le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. L'un des bénéfices de la patience, c'est également la paix. Quand tu as une vision de ce que tu attends que Dieu accomplisse dans ta vie, tu as la paix et la tranquillité du cœur. C'est ainsi que tu peux être dans une barque où les tempêtes sont en train de sévir et qui sont en train de frapper ta barque. Et pendant que tu es dans cette barque, tous les disciples sont en train de se plaindre. « Oh, nous allons périr, nous allons périr !» Mais il sait que son temps n'est pas encore arrivé. Et Jésus est patiemment en train de dormir dans la barque. Je prie que Dieu te donne la grâce d'avoir le calme au milieu de la tempête, la force au milieu de l'agitation des autres, mais aussi l'assurance au milieu des difficultés. Ne vous inquiétez de rien, mais faites toutes sortes de prières. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un autre bénéfice de la patience, c'est le pouvoir. Regardez dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. En fait, ce passage en anglais dit ceci. « Those who wait on the Lord ». On dit « wait on the Lord ». En français, on dit « ceux qui se confient en l'Éternel ».« Those who wait on the Lord » en anglais et « ceux qui se confient en l'Éternel ». En fait, dans une version comme celle de l'anglais, c'est en fait ceux qui patientent et s'attendent à Dieu. Regardez ce qui leur arrive. Alors, qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors regardez ceci. Comment est-ce que vous pouvez acquérir la patience? Il y a plusieurs exercices que vous allez faire. Je vais vous en donner trois. Aujourd'hui, je vous en donne seulement trois. Trois exercices pour acquérir la patience. Pourquoi? Parce que cette patience détermine le niveau d'élévation que vous allez obtenir, le degré de croissance que vous aurez. Cette patience, regardez. Premier conseil, exercice que je vous donne, la méditation. Josué chapitre 1, verset 8, que nous connaissons, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » La méditation quotidienne et journalière, 1, de la parole de Dieu, 2, méditation sur toi-même, et 3, méditation sur les événements qui t'entourent. Je reprends. 1, méditation quotidienne de la parole de Dieu. Regardez, c'est prendre du temps dans le calme et sans agitation. Au fur et à mesure que tu développes cette pratique, tu commences à construire en toi la capacité de patienter. Pourquoi ? Parce que quand tu médites, il n'y a rien d'autre qui devrait te distraire. Que les choses arrivent dans un ordre parfois différent de celui qu'on espérait. Les choses vont arriver, mais pas dans l'ordre dans lequel tu attendais. C'est pourquoi il faut simplement avoir confiance dans la patience. Non, ça marche maintenant. Il faut être confiant dans la patience. Deuxième exercice que je voudrais que tu fasses et que tu commences à développer et que tu en fasses une pratique quotidienne, c'est la prière. Romains chapitre 12, verset 12 dit ceci. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Persévérez dans la prière. Je ne sais pas si vous avez déjà prié pour quelque chose qui tarde. J'ai été malade pendant plusieurs semaines, inclus le dimanche passé quand je vous apportais la parole. J'étais malade. Et j'ai rencontré un docteur formidable qui m'a donné une cure. Il m'a donné des médicaments. Bon, je ne vais pas vous dire comment est-ce que je devais ingurgiter ces médicaments, parce que ce n'est pas approprié, mais ils entraient dans mon corps de manière spéciale. Les médecins, vous avez compris par où est-ce que ça devait entrer. Mais c'était des médicaments qui étaient censés me guérir en 4 jours. Après le 4e jour, pas de guérison. 5e jour, pas de guérison. 1 semaine, 2 semaines. Il a dû rajouter une dose de ce traitement. Je continue à apprendre. Mais pendant que je prenais, je donnais aussi la requête à notre dévotion matinale. Chaque matin de 6h à 7h, on se réunit en cellule. On a des moments merveilleux. J'espère que vous pourrez rejoindre une cellule de l'église, un de ces quatre. Et je donnais la requête de prière et je priais également. Un soir, je me suis dit, je vais quand même l'appeler, je vais lui dire ce qui est en train de se passer. Je lui ai dit, écoute, en tout cas, le médicament, là, il y a un problème, ça ne marche pas. Le soir où j'ai fait cette déclaration-là, le lendemain, je constate que la douleur de la veille avait complètement disparu. Complètement disparu. Et je prie que quelqu'un puisse avoir cette expérience, que la douleur que tu expérimentes maintenant puisse disparaître à cause de la persévérance et de la prière. Mais regardez, à aucun moment je n'ai arrêté de prier. Pourquoi ? Ma foi n'était pas dans le médicament, mais en celui qui est capable de guérir. Mais je prenais le médicament en attendant la guérison de celui qui guérit parfaitement. OK ? Alors regardez ceci. Regardez ceci, je voudrais que notre frère du keyboard vienne. Je voudrais faire une petite expérience pour clôturer. Quelqu'un a dit ceci, que la patience est un arbre aux racines amères. Les racines sont amères, mais le fruit est sucré. Les racines sont amères, mais le fruit de la patience est sucré. Et troisième exercice, troisième pratique, la réflexion. Pensez, réfléchissez. Proverbe 16, 20 dit, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Il dit même que les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. Dans Proverbe 20, verset 25, « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Regardez, réfléchissez, prenez le temps de penser aux événements qui vous arrivent. Et vous allez comprendre une chose. C'est que Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais à l'avance. C'est que quand Dieu vous conduit, il est en train de vous conduire, non pas selon le plan avec lequel il conduit ton voisin, mais avec le plan qu'il avait pour ta vie personnellement. Et quand vous finissez par réfléchir, vous vous dites, ah, et moi j'en voulais à tel, et moi j'enviais tel, parce que l'autre s'est marié à 24 ans, et moi jusqu'à 30 ans je suis en train d'attendre. Mais le jour où Dieu te visitera par le mariage, tu diras, ah, mon temps c'était celui-ci. C'était vraiment celui-ci. Et tu loueras le Seigneur. Pourquoi ? Cette célébration est venue avec la patience qui était la tienne. Et Dieu a donné à l'autre à 24 ans parce que c'est quelqu'un qui ne peut même pas se retenir. Vaut mieux se marier que de brûler. C'est pour ça que Dieu a dit, toi, avec tes capacités de résistance, allez, marie-toi maintenant. Mais l'autre, prépare-toi. Il fait toutes choses en son temps. En son temps. Il fait toutes choses en son temps. Et retenez ceci. La patience est dure, mais sa récompense est pure. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne sait pas du tout jouer du keyboard ? Vous ne savez pas du tout jouer du keyboard, venez. Non, je voudrais... Oui, toi tu ne sais pas ? Valentin, viens, viens. Il arrive que il y a des choses que nous aimerions posséder dans la vie. Des choses que nous aimerions être en mesure de faire. On regarde des orateurs et on se dit, un jour, si je pouvais prêcher comme lui. Vous regardez un cycliste, un boxeur ou un footballeur, vous dites, un jour, si je pouvais avoir sa fortune, mais il faut que j'aie son talent. Tu vas te mettre au keyboard là-bas. Mets-toi ici au keyboard. Trésor, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Alors, Valentin, j'aimerais que tu puisses... nous accompagner. Ok. Est-ce que ça fonctionne? Ok. Trésor, j'aimerais que tu puisses entonner un chant de louange. Vas-y, entonne-moi un chant de louange, s'il te plaît.
Amen.
Vas-y.
Kembo na yo nzambe nanga.
Vas-y.
Kembo na yo nzambe nanga. Lelolo bilibela, Yesu azali na bomo. Lelo lobi libela, Yesu azali na bomo. Amen.
Tu sais, même si tu joues patiemment ici, hein, ça ne va rien changer. Essaye de jouer un peu plus rapidement, vas-y, on y va.
Kembo.
Non, c'est peut-être la chanson. Qui... Change de chanson alors.
Yesu azali awa, Yesu azali.
Et regardez.
Yesu.
Il est à l'endroit où il doit être. Et regardez-le, il bouge aussi la tête, comme s'il savait ce qu'il faisait. Il bouge comme si vraiment il comprenait ce qu'il... Continue un peu.
Voilà.
Voilà. Et il monte aussi et il descend. Mais regardez la réaction qu'il y a. Mais maintenant, je voudrais que vous puissiez observer très attentivement. Esaïe, reviens à ta place, s'il te plaît. Observez très attentivement. Viens, tu vas te lever ici, mets-toi ici, très attentivement. En fait, je voulais lui offrir quelque chose. Et j'attendais qu'il puisse jouer de cet instrument de sorte à ce que cela puisse susciter en moi la volonté de lui offrir sa récompense. Mais quand il le faisait, plutôt que d'avoir la louange, j'ai eu, quoi ça ? De la moquerie, des rires, des gens qui ont toisé, etc., etc. Rechante la première chanson, c'était laquelle ?
Kembo na yo nzambe nanga. Kembo na yo nzambe nanga. Lelolo bilibela.
Maintenant, il veut nous impressionner. Il a même changé le son du keyboard. Vas-y.
Salina bomo.
Regarde-moi pendant que tu joues. Et toi, chante.
Toko yemba pona lokumu na yo.
Regarde à droite.
Toko yemba pona lokumu na yo.
Maintenant, lève-toi pendant que tu joues. Lève-toi pendant que tu joues. Joue, continue à jouer, lève-toi.
Lève-toi. Amen.
Peut-être c'était la chanson. Chante l'autre, Yesu Azali.
Gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia.
Regardez, la différence entre Valentin et Esaïe, il n'y a pas grand-chose. Ils sont tous les deux des jeunes, ils ont presque la même taille, ils ont deux bras, deux jambes, deux yeux, une bouche, deux oreilles. Ils sont pratiquement les mêmes. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que l'un a exercé son don et son talent par la patience de la pratique. Et l'un a pensé que la patience ne servait à rien, il pouvait bénéficier de certaines choses instantanément. Résultat, plutôt que d'être une bénédiction, il était un objet de raillerie. Mais celui qui l'a exercé par la pratique, des fois dans le secret, dans l'ombre où personne ne le voyait, résultat, il y a la bénédiction du peuple de Dieu ici présent. Dis à ton voisin, patiente. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et que quelqu'un soit encouragé.